Il est matin, débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vous en parliez à l'instant, les couvre-feux imposés à Washington et Los Angeles n'arrivent pas à éteindre la colère des manifestants aux États-Unis. Des milliers de personnes ont de nouveau protesté contre les violences policières et le racisme. Sixième nuit de tension, d'émeute après le décès de George Floyd, un homme noir de 46 ans, aux mains d'un policier blanc. Nous serons à Minneapolis dès le début de ce journal, là où tout a commencé.
Et puis, à la une également, des massacres en série au Burkina Faso, au moins 50 morts ce week-end dans des attaques attribuées à des groupes djihadistes.
En ce lundi 1er juin, plusieurs changements en France liés à la crise sanitaire et économique. Les entreprises, par exemple, doivent désormais prendre en charge 15% du chômage partiel, histoire de soulager un peu l'État. La réouverture ce week-end de plusieurs lieux de culte dans le monde, l'esplanade des mosquées à Jérusalem, et puis le parvis de Notre-Dame a rouvert en ce week-end de Pentecôte, plus d'un an après l'incendie de la cathédrale. Un symbole salué par le gouvernement, la maire de Paris et les habitants déconfinés.
Et puis justement, pour continuer dans le même domaine, Catherine, la question du jour dans une dizaine de minutes. Qu'est-ce que le confinement a changé à la vie spirituelle des fidèles? Nous poserons la question à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France.
Des routes ont été coupées, des voitures et des commerces incendiés et les forces de l'ordre déployées en grand nombre ont répliqué par des gaz lacrymogènes, voire des balles en caoutchouc. Aux États-Unis, les manifestations et les violences ont gagné New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago et Washington, la capitale fédérale où un couvre-feu a été décrété pour empêcher que de nouvelles émeutes n'émaillent les manifestations contre les violences policières et le racisme. Des milliers de personnes exigent encore et toujours que justice soit rendue après la mort de George Floyd, cet Afro-Américain de 46 ans mort après avoir été interpellé par un policier blanc. C'était lundi dernier à Minneapolis et la colère n'est pas retombée depuis. Loïc Loury.
Une semaine après la mort de George Floyd, le slogan est désormais connu. « I can't breathe, je ne peux plus respirer », c'est ici, sur le bitume, face au magasin Cub Foods, qu'il a répété ces mots. Tiffany écoute les orateurs qui se succèdent à quelques mètres de là.
Ça rend fou, triste, toutes les émotions possibles. C'est horrible. C'est bien de voir que les gens se rassemblent pour une telle cause. Mais ce serait mieux si quelque chose était fait pour régler le problème. Combien de fois va-t-on devoir vivre ça dans notre pays?
Au sol, des centaines de bouquets de fleurs et des mots écrits à la craie, un portrait de George Floyd est peint sur un mur. Kira, née à Minneapolis, est très émue.
Ça m'a détruit, quoi. C'était, j'ai pas les mots. C'est ma ville et je l'aime. C'est mes voisins qui souffrent. Et je veux les aider et des fois, je ne sais pas comment le faire.
Mais le mouvement, né à cet endroit précis, a embrasé des dizaines de villes ces derniers jours. Ivory y voit du positif.
Ça semblait différent cette fois, comme si plus de gens en avaient marre, avaient conscience du problème. Ce n'est plus comme si cela concernait une seule communauté. Tout le monde sent cette insécurité. Il y a une urgence d'unité.
Reste à obtenir le changement espéré, à commencer par la vérité, disent les manifestants, et la justice pour George Floyd.
Loïc Loury à Minneapolis pour France Culture. Et Derek Chauvin, le policier blanc qui a maintenu pendant de longues minutes son genou sur le cou de George Floyd, il doit comparaître pour la première fois aujourd'hui devant un tribunal. Pour obtenir justice, les manifestants continuent eux de faire entendre leur voix, comme à Los Angeles où, à cause des tensions et des pillages, l'état d'urgence et un couvre-feu ont aussi été décrétés. Loïc Piala.
Pour la première fois depuis les émeutes suivant l'affaire Rodney King en 1992, la garde nationale a été déployée dimanche à travers Los Angeles sans empêcher les débordements. Cette fois, les pillages ont touché Santa Monica, ville appréciée des touristes au bord du Pacifique. Dès le début de l'après-midi, des dizaines d'individus ont pris d'assaut les boutiques d'un centre commercial en plein air, un magasin de chaussures et une bijouterie, entre autres. Certains pilleurs sont repartis à bord de voitures qui les attendaient. Un camion de livraison d'Amazon a lui aussi été attaqué. Un photographe a été blessé, un caméraman menacé avec une pelle. Des scènes de à quelques rues d'une manifestation contre les violences policières, organisée, elle, dans le calme. À Huntington Beach, un bastion républicain au sud de Los Angeles, c'est un face-à-face tendu entre manifestants et contre-manifestants qui a mobilisé les forces de l'ordre. Tout cela alors que la nuit tombe à peine sur la Cité des Anges.
Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture.
7h04 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Aujourd'hui, entrent en vigueur les nouvelles règles du chômage partiel.
Un dispositif largement facilité pour faire face à la crise en France. 8 millions de salariés en ont bénéficié. Pour un grand nombre d'entreprises, cela a été indispensable pour ne pas licencier tant la baisse d'activité a été importante à cause de la crise sanitaire. Mais pour d'autres, cela a surtout été une aubaine pour récupérer de l'argent public. Alors, pour réduire sa facture, l'État travaille à la diminution progressive de l'aide à ces entreprises. Des entreprises qui doivent désormais prendre en charge 15% du chômage partiel, Catherine Pétillon.
L'État ne peut pas durablement payer les salaires de millions de personnes du secteur privé, résume la ministre du Travail Muriel Pénicaud. L'ouverture massive du dispositif de chômage partiel s'est traduite par un coût important pour l'État et pour l'assurance chômage qui paye un tiers du dispositif. Pour les entreprises, être aidé à ne pas licencier est une chose, en profiter en est une autre. Depuis plusieurs semaines, il apparaît qu'il y a eu des effets d'aubaine. Un certain nombre d'entreprises auraient eu un usage douteux, voire franchement illégal du système. Selon une étude du cabinet Technologia, 25% des salariés en chômage partiel auraient en fait dû continuer à travailler. Dès la mi-mai, la ministre du Travail avait d'ailleurs attiré l'attention de ses services, les directs, sur les cas de fraude, appelant à renforcer les contrôles. De son côté, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a affirmé hier que, le cas échéant, il y aurait des sanctions, mais sans préciser lesquelles. Baisser la facture en réduisant la fraude, donc, mais aussi en diminuant la part d'aide de l'État. Dès aujourd'hui, le dispositif est financé à 15% par les entreprises et non plus à 100% par les finances publiques. Pour la suite, et les secteurs durablement touchés, le gouvernement prépare un régime d'activité alternatif. La semaine dernière, le Sénat a adopté en première lecture un amendement à la loi portant diverses mesures urgentes face au Covid. Il permet une réduction du temps de travail ou des salaires en partie compensée par l'État et sous réserve d'engagement en matière d'emploi.
Autre changement à compter de ce lundi 1er juin, une nouvelle baisse des tarifs réglementés du gaz d'Engie, moins 2,8%. À noter, il n'y aura pas de coupure d'énergie possible pour non-paiement de factures jusqu'au 10 juillet en raison de la crise sanitaire et économique. Une crise qui accélère par ailleurs la tenue à distance des assemblées générales de copropriété, possible donc sans approbation préalable de cette nouvelle méthode. La SNCF sur la voie d'un retour à la normale. Le secrétaire d'État au transport annonce que dès le 15 juin prochain, l'obligation de n'utiliser qu'un fauteuil sur deux dans les TGV sera levée. Le port du masque restera obligatoire. L'attestation employeur également en Île-de-France pour les heures de pointe. On y revient dans le journal de 7h30. Elle aussi, elle est déconfinée. Notre-Dame et son parvis a pu rouvrir hier, jour de Pentecôte, plus d'un an après l'incendie de la cathédrale. Le ministre de la Culture, Franck Riester, est venu marquer ce très beau symbole hier. À Jérusalem, l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam et premier hors de l'Arabie Saoudite, a rouvert hier après plus de deux mois de fermeture à cause de la pandémie de coronavirus. Une réouverture au lendemain de la mort à proximité d'un Palestinien qui a suscité un vif émoi. Mais l'ouverture hier s'est plutôt déroulée dans le calme. Alice Froussard était à Jérusalem pour France Culture.
Ils étaient des centaines et des centaines de fidèles réunis avant la première prière du matin devant les grandes portes encore fermées de l'esplanade des mosquées. Il n'est même pas 4 heures du matin. Par notre âme, par notre sang, nous protégerons Al-Aqsa, chantent-ils en chœur. Puis tous se pressent une fois les portes ouvertes, certains prient à même le sol. La fermeture de l'esplanade des mosquées, une triste exception pendant le ramadan, pendant l'Aïd, nous dit-on. Alors la réouverture, c'est un jour de fête pour ce commerçant à l'entrée de la Porte des Lions.
C'est un sentiment merveilleux, évidemment. Et toutes les mosquées sont ouvertes de nouveau, pas seulement Al-Aqsa. On peut donc aller prier, c'est très émouvant.
À l'intérieur de la mosquée, sur des tapis de prière, des petits rubans ont été collés pour respecter la distanciation physique. Le cher Omar Kiswani est le directeur de la mosquée d'Al-Aqsa.
On va devoir coexister avec ce virus, alors on prend toutes les mesures de précaution possibles afin d'empêcher sa propagation. Porter un masque, désinfecter les salles de prière ou les endroits les plus fréquentés à l'extérieur sur l'esplanade. Et puis, on rappelle les règles aux fidèles et on veille à ce qu'ils les respectent.
Dehors, tout est globalement en calme et les soldats israéliens sont aux aguets. 8 résidents arabes ont été arrêtés dans la matinée. Selon la police israélienne, ils perturbaient la réouverture avec des slogans nationalistes.
Direction le Burkina Faso à présent, qui vient de subir 3 nouvelles attaques terroristes ce week-end, faisant au moins 50 morts. Les précisions à Ouagadougou de Fanny Noirot.
En l'espace de 48 heures, ces 3 attaques terroristes ont fait à elles seules presque autant de morts que ne l'a fait le coronavirus dans le pays. Elles ont d'abord visé un convoi de commerçants vendredi près de la commune de Solé dans le nord du pays. À bord de ce convoi, des femmes et des enfants étaient également présents. On dénombre 15 morts. Le lendemain, samedi, près de la ville de Foubé, dans le centre-nord, un autre convoi a été visé, humanitaire cette fois-ci. Il était escorté par la gendarmerie et venait de transporter des vivres aux déplacés internes, ces personnes qui ont dû fuir leur domicile à cause des menaces sécuritaires. Le bilan provisoire fait état de 10 morts. Le même jour, à l'est, cette fois-ci près de la frontière togolaise, des hommes armés ont ouvert le feu dans un marché au bétail très fréquenté. Certains ont même poursuivi leurs victimes jusque dans la brousse. On parle d'au moins 25 personnes tuées et de plusieurs portées disparues. Les convois et les marchés sont des cibles récurrentes des groupes terroristes. D'une part, cela permet d'attaquer les forces de défense et de sécurité qui les escortent. Et surtout, cela empêche les populations d'être ravitaillées et les pousse à partir. Selon les derniers chiffres, le Burkina Faso compte près de 850 000 déplacés.
Fanny Noiro à Ouagadougou pour France Culture. C'est la première entreprise privée à emmener des astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale. SpaceX a réussi ce week-end le voyage aller vers l'ISS. La société d'Elon Musk permet aux États-Unis de renouer ainsi avec le vol habité 9 ans après la dernière mission de navette. La Russie et ses fusées Soyouz n'ont donc plus le monopole des vols habités vers la station spatiale internationale, mais le Kremlin a décidé de relever le défi dès l'année prochaine, Claude Bruyot.
Dans 11 mois, tous les Russes seront sans doute appelés à fêter avec fierté le 60e anniversaire du premier vol dans l'espace de la légende Yuri Gagarin. Mais d'ici là, cette fierté entretenue par les envois réguliers d'astronautes vers l'ISS en aura pris un coup sans doute avec le lancement réussi donc de la fusée américaine. Roscosmos et les dirigeants russes ont alterné entre le fair-play et l'ironie, indiquant qu'il était utile pour la communauté scientifique d'avoir d'autres solutions que les lanceurs Soyouz, mais soulignant également que vu les moyens américains engagés, ce lancement aurait dû être réussi depuis longtemps. Le plus important peut-être dans les réactions ici est venu de l'annonce de la relance du programme lunaire de la Russie, annonce qui n'a pu se faire sans l'aval du Kremlin. Alors que jusqu'ici, Vladimir Poutine avait surtout insisté pour que les scientifiques russes travaillent d'abord sur le volet militaire et notamment sur les programmes de missiles intercontinentaux. Toute la question est maintenant de savoir jusqu'où le pouvoir fédéral est prêt à mettre des moyens sur le programme lunaire, lui qui est régulièrement obligé de combattre la corruption qui touche aussi le secteur spatial, désormais obligé de trouver de nouvelles recettes, surtout si la NASA devient moins client de ses transports.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. Quelques mots du temps de ce lundi 1er juin ensoleillé dans le nord de la France, plus instable au sud. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 25 et 30 degrés du nord au sud.